France Inter.
Bonjour à tous et bienvenue au sommaire aujourd'hui. Une recharge de véhicules électriques aussi rapide qu'un plein d'essence, annonce choc faite hier soir par le leader mondial, le constructeur chinois BYD, qui révolutionnerait le marché de l'électrique. Explication dans un instant. À suivre encore, au moins 400 morts dans la bande de Gaza. Israël a rompu le cessez-le-feu la nuit dernière pour contraindre, dit son premier ministre, le Hamas à négocier la libération des derniers otages. Nous serons en direct de Jérusalem. Nous écouterons également le futur chancelier allemand, discours historique ce matin à Berlin pour proposer une nouvelle communauté européenne de défense. Et nous nous demanderons ce que sont devenus les anciens présidents américains bien silencieux, Joe Biden et Barack Obama. À suivre encore, le gouvernement français qui hausse le ton face à l'Algérie. Bonjour Christian Chesneau.
Bonjour.
Mais qu'en dit la presse algérienne ?
Eh bien écoutez, à Alger, elle tire à boulets rouges sur Bruno Retailleau, le ministre français de l'Intérieur.
À tout de suite pour vos explications. Nous écouterons aussi des livreurs indépendants de plateformes qui dénoncent aujourd'hui leur faible rémunération.
Maintenant oui, il y a une commande, mais j'attends. C'est 12 km, il paye 8 euros. C'est par jour 40-50 euros, je gagne. Et après, je paye à URSSAF 22%.
Reportage à suivre. Nous nous demanderons aussi comment retirer les couverts et assiettes en plastique des cantines scolaires à partir de 13h30. Nous resterons à l'école. La carte scolaire à la rentrée 2025, des mobilisations partout près de chez vous. Pourquoi ces 470 postes supprimés dans le primaire? Le nombre d'élèves est en baisse, répond le ministère. 01 45 24 7000 pour vos questions et témoignages. 13h50, c'est la France, le développement des transports solidaires. Ce sera avec Cyril Petit du journal Ouest France. Et puis juste avant 14h, la comédienne Caroline Siol, les Platters et Frédéric Pommier. Voilà, vous avez le programme. Merci de passer cette heure avec nous.
France Inter.
La panne sèche, voilà l'une des craintes des automobilistes à l'heure d'envisager la conduite d'un véhicule électrique. Autonomie réduite, manque de bornes et puis surtout un temps de recharge plus long que les voitures thermiques. Un handicap que dit avoir résolu le numéro 1 mondial de la voiture électrique, le chinois BYD, qui a vu ses ventes augmenter le mois dernier de 161%. Bonjour Sébastien Berriot.
Oui, bonjour.
Vous êtes notre correspondant à Pékin. Sébastien, BYD a annoncé hier soir une recharge possible en 5 minutes pour une autonomie de 400 km. Comment est-ce possible ?
Alors, BYD donne peu de détails sur la conception de ce super chargeur élaboré, dit le fabricant, grâce à une puce d'alimentation nouvelle génération, particulièrement résistante aux hautes tensions. Ce qui est sûr, c'est que c'est un très joli coup commercial pour le fabricant chinois qui promet un temps de recharge équivalent à ce qui se pratique aujourd'hui pour un plein d'essence classique, c'est-à-dire effectivement 5 minutes à peine de recharge pour une autonomie de 400 km. C'est inédit, la vitesse de charge atteint les 2 km par seconde. BYD fait mieux que tous les autres fabricants, à commencer par son principal concurrent, l'américain Tesla.
Bon, ça marche, Sébastien, en test, sur quelques véhicules. Est-ce que ça va pouvoir fonctionner à grande échelle ?
Alors, ce n'est que le début, mais il faut quand même dire que pour le moment, le nouveau chargeur ne peut fonctionner qu'avec deux types de véhicules bien précis de la marque BYD. L'objectif est de l'étendre à d'autres voitures. Le fabricant chinois dit vouloir construire 4000 stations de recharge avec ce système uniquement en Chine. Et évidemment, il faudra aussi attendre les premiers retours d'utilisation. Certains spécialistes évoquent de possibles dégâts sur les batteries avec un risque de surchauffe en raison d'une puissance qui est très élevée, qui va atteindre le mégawatt.
Alors, recharger son véhicule en 5 minutes, qu'en disent les experts européens du secteur ? Bernard Julien n'est pas technicien, mais économiste, spécialiste de cette filière auto. Une telle avancée placerait le constructeur en position de force face à ses concurrents, dit-il.
Il y a péril en la demeure, et il n'y a pas tellement d'autres solutions que de se protéger pour éviter que BYD se retrouve en quasi-monopole sur le marché électrique dans des délais très brefs. Et puis après, il y a évidemment la question de savoir si les recharges en question qui consomment beaucoup d'électricité au même instant, hein, puisqu'il s'agit de doubler ce que font en gros les superchargeurs Tesla, hein, est-ce que ça correspond à des systèmes qui sont aisés à mettre en œuvre ? Est-ce que le réseau qu'ils entendent développer en Chine va effectivement se développer ? Est-ce qu'un réseau équivalent peut développer dans des temps raisonnables sur, par exemple, le marché européen. Tout ceci multiplie les inconnus. Néanmoins, bien évidemment, il y a là quelque chose d'extrêmement séduisant pour les clientèles et d'extrêmement inquiétant pour la concurrence.
Le spécialiste de la filière automobile, Bernard Julien, au téléphone de Mathieu Bonnour. Nous étions en Chine il y a un instant avec Sébastien Berriot, les Chinois qui demandent ce matin au mouvement islamiste Hamas et à Israël d'empêcher, je cite, une catastrophe humanitaire. Israël a donc brisé le cessez-le-feu en vigueur depuis 2 mois la nuit dernière en bombardant massivement la bande de Gaza, bilan au moins 400 morts, dont de très nombreux civils, selon le Hamas qui dit avoir perdu dans ses frappes 4 de ses dirigeants. Bonjour Thibault Lefebvre.
Bonjour Jérôme.
Vous êtes notre correspondant à Jérusalem. Comment le gouvernement israélien explique-t-il sa décision ?
Eh bien, la première explication, c'est le refus du Hamas de libérer les otages. La seconde est-elle liée à la stratégie agressive du nouveau chef d'état-major ? Il s'appelle Eyal Zamir et il a un plan de pression progressive sur le Hamas et sur les populations civiles. Alors, il y a d'abord eu la suspension de l'aide humanitaire, puis la coupure totale de l'électricité. Il y a depuis cette nuit ces bombardements et peut-être bientôt le retour des combats au sol. Israël exige, avec le soutien américain, que le Hamas libère les otages selon les termes qu'il a redéfinis unilatéralement début mars. Jusque-là, l'organisation islamiste a refusé, exigeant d'appliquer l'accord tel qu'il avait été arrêté mi-janvier.
Thibault, ce matin, après la reprise de ces frappes, des Israéliens sont descendus dans la rue pour protester. Vous êtes allé à leur rencontre.
Et appel suivi à Jérusalem devant le Parlement par des dizaines de manifestants comme Irit. Elle est arrivée une demi-heure après avoir vu un message sur les réseaux sociaux.
Je suis venue pour apporter mon soutien aux familles d'otages. J'ai peur qu'avec ce que le gouvernement fait, leurs proches soient tués. C'est le combat le plus important.
Un combat pour les otages et contre Benjamin Netanyahou, le premier ministre israélien qui échappe aujourd'hui à une nouvelle journée de comparution devant le tribunal qui le juge pour corruption et qui évite des débats chaotiques sur sa tentative de limogeage dimanche dernier du patron des services secrets intérieurs. Efrat est dans une colère noire.
Ça ne concerne pas seulement nos otages, mais aussi des Palestiniens innocents. Regardez le timing. C'est une décision cynique de Benjamin Netanyahou. La seule chose qu'il peut faire pour sauver sa peau, c'est de recommencer la guerre. Il a tellement de sang sur les mains.
Il a 412 morts, Jérôme, depuis cette nuit, selon le ministère de la Santé de Gaza, lié au Hamas. C'est 4 fois plus qu'en 2 mois de trêve.
Thibault Lefebvre pour ce reportage en direct de Jérusalem. Le gouvernement américain affirme qu'il a été consulté par Israël avant le déclenchement de ces frappes, ce qui fait dire au Hamas ce matin que les États-Unis portent l'entière responsabilité de ces bombardements. Bonjour Étienne Monin.
Bonjour.
Le répit aura donc été de courte durée pour les habitants de la bande de Gaza. Vous avez pu recueillir ce matin quelques témoignages de Palestiniens.
Oui, et c'est comme si Gaza était revenu en arrière. Les frappes de la nuit ont eu l'intensité des pires moments de la guerre. Les hôpitaux n'arrivent pas à faire face, d'après la Fédération des sociétés de la Croix-Rouge. À Gaza, dans la ville, les habitants ont mesuré l'amplitude de l'opération israélienne, dit Noureddine, qui a regagné son logement après avoir été déplacé plus au sud pendant plus d'un an.
C'était une nuit difficile, parce que le bruit des bombes était très fort, comme pendant l'été dernier quand la guerre était intense. C'était soudain et fort. Presque tout le monde a eu un sentiment d'horreur et on ne savait pas quoi faire.
L'opération ne semble pas terminée. Un ordre d'évacuation a été lancé par l'armée israélienne dans plusieurs secteurs de l'est de Gaza. Les sentiments sur place vont de l'inquiétude à la panique. Asma Khan Younes ne fait pas partie des quartiers qui doivent être vidés, mais reprendre la route, pour elle, ce serait un cauchemar.
Le plus dur, le plus difficile pour tous les citoyens ici, c'est de quitter les maisons. Je suis à côté de la fenêtre, je vois la rue, c'est tout vide, il n'y a pas de transport. Même si tu es obligé de quitter, tu vas y aller où ? Et tu vas y aller comment ? Et d'un autre côté, si tu vas rester chez toi, tu es en danger.
D'après un journaliste gazaoui, des écoles, des camps, des postes de police et des appartements ont été ciblés. Le Hamas a confirmé la mort de plusieurs hauts responsables de l'organisation, parmi lesquels le dirigeant du ministère de l'Intérieur.
Et le Royaume-Uni appelle à l'instant à rétablir le cessez-le-feu dès que possible à Gaza. Merci Étienne Monin. L'autre grand titre aujourd'hui dans l'actualité internationale, c'est cet échange téléphonique. Cet après-midi, à partir de 14h, entre le président américain Donald Trump et son homologue russe russe, Vladimir Poutine, une ligne directe Washington-Moscou pour parler guerre et paix, comme aux plus belles heures de la guerre froide, déjà une victoire pour Vladimir Poutine. Les Ukrainiens, eux, exclus de la discussion, appellent ce matin les Russes à accepter un cessez-le-feu. La menace russe dont il était question ce matin devant le Parlement allemand, le futur Premier ministre, futur chancelier Friedrich Merz, y a plaidé pour la création d'une nouvelle communauté européenne de défense, 71 ans après l'échec de la première.
Pendant au moins une décennie, et sans doute depuis beaucoup plus longtemps, nous avons cru à une sécurité trompeuse. Nous devons maintenant reconstruire en partie notre capacité de défense. Cette décision que nous prenons aujourd'hui n'est rien de moins que le premier grand pas vers une nouvelle communauté européenne de défense. Une communauté de défense qui inclut également des pays qui ne sont pas membres de l'Union européenne, mais qui sont très intéressés par la construction de cette défense européenne commune, comme par exemple la Grande-Bretagne et la Norvège. Les circonstances sont avant tout déterminées par la guerre d'agression menée par Poutine contre l'Europe. C'est en effet une guerre contre l'Europe et pas seulement une guerre contre l'intégrité territoriale de l'Ukraine.
Voilà pour les mots de Friedrich Merz et ce tournant historique en Allemagne. Le président français Emmanuel Macron sera à Berlin ce soir après une visite en ce moment sur la base aérienne de Luxeuil en Haute-Saône, base qui participe à la dissuasion nucléaire française. On le voit, la donne internationale a complètement changé en quelques semaines. Et il y a un silence qui interpelle, c'est celui des anciens présidents américains qui ont présidé à la marche du monde ces dernières années, Barack Obama, Joe Biden et même l'ancienne candidate démocrate Kamala Harris. Ils sont tous trois d'une réserve extrême face à Trump. Bonjour Loïc Loury.
Bonjour.
Correspondant de France Inter à New York, les démocrates, Loïc, semblent impuissants.
Oui, alors les démocrates ont au moins une excuse, ils sont minoritaires au Congrès et leur opposition est donc largement stérile. Ceci étant dit, leurs divisions n'en sont pas moins flagrante, notamment depuis cette affaire de shutdown, évitée grâce au vote de sénateurs démocrates, dont leur chef, Chuck Schumer, désormais sous le feu des critiques d'autres élus plus progressistes, mais aussi de la base militante. Le parti, en effet, est au plus bas depuis 35 ans, 27% d'opinion favorable, à peine auprès de la population, inaudible et divisé. Nous ne sommes pas une secte, tente de se justifier le patron des démocrates à la Chambre.
Le parti manque aussi sans doute de visage connu pour porter son message.
Oui, écoutez, Kamala Harris est toujours un petit peu hors-jeu après la présidentielle. Joe Biden, 82 ans, lui aussi est tout à fait silencieux. Nancy Pelosi, l'une des figures du parti, a cédé sa place comme chef de file à la Chambre. Et Barack Obama fait lui profil bas, rien ou presque depuis l'élection du 5 novembre. La résistance politique face à Donald Trump toutefois existe, éclatée mais bien présente. Quelques gouverneurs charismatiques, comme le Californien Gavin Newsom, et des élus bien en verve mènent la charge chacun dans son coin, l'infatigable Bernie Sanders en particulier, en tournée contre l'oligarchie, une tentative indispensable de reconnecter le parti à sa base. Une grande journée de mobilisation est prévue le 5 avril, en attendant la vraie échéance, les midterms fin 2026.
Joe Biden s'est tout de même exprimé hier sur le réseau X, mais pour souhaiter une bonne Saint-Patrick à tous les Irlandais, l'Irlande pays d'origine de sa famille. Merci Loïc Loury pour cet éclairage.
France Inter, le 13-14, Jérôme Cadet.
À l'origine, ces chasseurs étaient partis en montagne pour tuer des sangliers, une battue. Mais la partie de chasse s'est terminée par la mort d'un ours, l'ours caramel, animal protégé. C'était en novembre 2021, dans les Pyrénées, département de l'Ariège. Le procès des 17 chasseurs s'est ouvert ce matin devant le tribunal correctionnel de Foix. Jean-Philippe Degnaud, vous êtes sur place pour Inter. Les chasseurs se sont exprimés ce matin.
Cela fait 10, 20 ou même 40 ans qu'ils chassent tous les week-ends sur la même zone. Il y a les postiers, ceux qui attendent le gibier, et les piqueurs qui lâchent les chiens pour ramener la bête sur les postiers. Ce samedi, ils ont fait comme d'habitude, raconte à la barre les 16 chasseurs, 15 hommes et une femme, poursuivis pour s'être déployés à l'intérieur de la réserve protégée. Mais comment savoir, se défendent-ils ? Vous étiez quand même à 400 mètres de la limite autorisée, relève la présidente, soit une heure de marche. On ne sait jamais vraiment où on est, explique le chef de battue. Ce jour-là, les panneaux sont illisibles, la végétation change tout le temps, on est obligé obligés de se décaler avec les randonneurs sur le GR10. Alors les limites, moi je ne sais plus où elles sont. Et puis, personne ne nous avait prévenu que l'ours était présent, insiste un autre chasseur, reprochant ainsi à l'Office français de la biodiversité de n'avoir pas fait de signalement. Sinon, c'est clair, on arrête la battue, on gèle le territoire et on se replie. Alors cette affaire, c'est démesuré, résume Laetitia, celle qui a sauvé son collègue André, la victime de Caramel. Pour moi, je n'ai pas chassé dans la réserve et j'ai sauvé une vie. C'est tout ce qui compte.
Jean-Philippe Degnaud a foi pour Inter. En Corse, il s'agit du quatrième assassinat depuis le début de l'année. Pierre Alessandri, syndicaliste agricole de 55 ans, a été blessé par balle hier soir sur son exploitation près d'Ajaccio. Il est mort ensuite quelques heures plus tard. Il était membre du syndicat Via Campagnola, qui fait partie de la Confédération Paysanne. Une audience peut-elle en cacher une autre? Le Conseil constitutionnel se penche depuis ce matin sur la question de l'exécution provisoire des peines d'inéligibilité pour les élus. Quand ils sont condamnés, des juges peuvent-ils, en plus, les déclarer inéligibles? Et cela, même si ces élus font appel. Cela pourrait intéresser Marine Le Pen, qui saura le 31 mars si elle est condamnée dans l'affaire des assistants parlementaires du Front National. Ce jour-là, le tribunal aura-t-il le droit de la déclarer inéligible? Et immédiatement, bonjour Charlotte Piret.
Bonjour.
C'est donc le Conseil constitutionnel qui a la réponse et qui examine aujourd'hui le cas d'un élu local de Mayotte.
Oui, conseiller municipal démite ses fonctions dès sa condamnation, mais bien au-delà de son cas, son avocate le sait.
Votre réponse, et vous le savez, très attendue par un certain nombre d'élus.
Attendu des élus locaux, sujet de cette audience, Hubert Falco, ancien maire de Toulon, est représenté comme cet élu de Seine-et-Marne, et son avocate, maître Élodie Le Prato.
Qui est sanctionné par l'exécution provisoire? L'élu, bien sûr, mais pas seulement, l'électeur aussi. Il subit indirectement la peine de confiscation de sa voix, du vote qu'il a porté. Et derrière l'électeur, la justice elle-même, la juridiction qui aura prononcé la peine, qui se verra prise à partie, et victime d'un procès inique, celui d'avoir pris une décision politique.
Alors de là à penser à d'autres cas, il n'y a qu'un pas.
Le peuple allemand n'a pas élu Hitler. C'est la faiblesse des contre-pouvoirs qui a fait tomber la démocratie.
Maître Jérémy Afanjakar, avocat pour l'association Anticorruption Anticor, plaide en faveur de l'exécution provisoire.
La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants. Mais quand le représentant viole le mandat que le peuple lui confie, la souveraineté ne s'exerce plus. Et quelqu'un doit mettre fin à ces abus.
Les sages ont annoncé leur décision pour le 28 mars, soit trois jours avant le jugement de Marine Le Pen, son mandat national, ses futures candidatures sur lesquelles ils peuvent ou non choisir de statuer.
Merci Charlotte Piret. Il aurait peut-être aimé l'être, mais il ne l'est pas. Gérald Darmanin n'est pas ministre des Affaires étrangères, mais de la Justice. Pourtant, ce matin, il s'est dit favorable au rappel de l'ambassadeur de France en Algérie. Nouvelle prise de position d'un membre du gouvernement après le refus hier par Alger d'autoriser l'expulsion vers son territoire d'une soixantaine de ses ressortissants. Expulsion demandée par Paris. Alors depuis, de nombreux élus de droite et d'extrême droite demandent des représailles au gouvernement de François Bayrou. Et pendant ce temps, en Algérie, Christian Chéneau, vous avez lu la presse algérienne ce matin. Ces journaux parlent des accords d'Évian qui ont mis fin à la guerre en 1962.
Il y a 63 ans, l'Algérie ressuscitait, peut-on lire à la une du quotidien Le Soir, qui ajoute que cette année, cette commémoration des accords d'Évian intervient dans un contexte très tendu avec la France. Les médias algériens, souvent des courroies de transmission du pouvoir, ont trouvé leur tête de turc en la personne de Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur qui est accusé par le journal El Moudjahid d'avoir aligné la droite française sur l'extrême droite en versant dans un racisme décomplexé à des fins électoralistes qui sont de moins en moins occultés. Fin de citation. Même son cloche du côté de l'Expression qui qualifie Bruno Retailleau de ministre sans foi ni loi et même de maître chanteur qui a signé un pacte avec le diable, l'extrême droite, défiant ouvertement son propre président de la République. Enfin, pour El Chourouk, c'est Paris qui a tiré le plus de bénéfices des accords bilatéraux et de citer le bail de la résidence de l'ambassadeur de France à Alger dont le montant est resté inchangé depuis les accords d'Évian et qui, aujourd'hui, équivaudrait, affirme le journal, au loyer d'une chambre de bonne à Paris.
Accord d'Évian signé le 18 mars 1962. Merci Christian Chéneau. Là, il s'agit de jeunes migrants qui demandent le droit de rester en France. Cela faisait trois mois qu'ils occupaient illégalement à Paris la salle de spectacle de la Gaîté Lyrique. 300 d'entre eux ont été expulsés ce matin par les forces de l'ordre malgré la présence de militants. Sur place, Simon Le Baron.
Des exilés, des militants allongés sur le trottoir, les yeux rouges, suffoquants, d'autres qui marchent en boitant.
Allô, pompiers !
Pompiers !
Des exilés comme Aboulaye, venu de Côte d'Ivoire, il assure qu'il n'a pas encore 18 ans. Des militants comme Nine, venu le soutenir, lui et ses camarades. Elle a 24 ans.
Les policiers, ils sont venus en violence, ils ont des coups de matraque, des gaz lacrymogènes. Hein ? C'est inhumain.
D'un seul coup, ils ont décidé de séparer en deux tous les gens qui étaient devant la Gaîté Lyrique. Du coup, ça a poussé tout le monde et tout le monde s'est fait piétiner. Et c'est d'une violence qui est juste incompréhensible, quoi.
Et maintenant, la plupart de ces jeunes migrants ont refusé de monter dans les bus qui devaient les conduire dans des centres pour adultes en région, car ils expliquent que c'est ici que se trouvent leurs démarches administratives, leur parcours de santé et leur recours judiciaire pour obtenir le statut de mineur isolé. Alors maintenant, dit Yann Manzi, cofondateur de l'association Utopia 56, c'est le retour dehors.
C'est l'errance qui va continuer, c'est la rue et c'est cet accueil par le trottoir que nous dénonçons, en sachant qu'une bonne partie de ces jeunes, une fois qu'ils vont passer devant le juge des enfants après 6 mois d'errance et de rue, vont, pour une grande partie d'entre eux, être reconnus mineurs. Le signal qui est donné, c'est « Regardez comment on ne vous accueille plus, ne venez pas ».
Faute de mieux, l'association prévoit de leur distribuer ce soir des tentes pour les aider à supporter le froid.
Et la préfecture de police de Paris dit avoir interpellé 46 personnes ce matin lors de cette opération. On trouve parmi ces travailleurs des sans-papiers, mais pas uniquement. Les livreurs indépendants des plateformes comme Uber Eats ou Deliveroo. Ils sillonnent nos villes, à vélo, ils sont appelés à protester aujourd'hui contre la baisse de leur rémunération, mais aussi contre le mode de calcul des prix pratiqués par ces plateformes. Plusieurs syndicats appellent à des rassemblements spontanés partout en France, et c'est aussi l'occasion pour ces livreurs d'exprimer leur ras-le-bol, de parler de leur quotidien. C'est le cas de Mohamed, que vous avez rencontré à Avignon, Romain Vercher.
Il est midi et demi, rue de la République. Mohamed devrait être en train de multiplier les livraisons à cette heure-ci. Mais rien de tout ça. Depuis 5 minutes, il refuse les commandes sur son téléphone. Les prix sont trop bas.
Maintenant, oui, il y a une commande, mais j'attends. C'est 12 km, il paye 8 euros. S'il donne un autre pour ça, sur ça, je fais, sinon j'ai un autre.
Là, par exemple, 12 km pour 8 euros, tu les fais pas?
Non, je les fais pas.
D'aller de la place des Corsins à Avignon jusqu'à Sorgues?
Jusqu'à Sorgues, oui. Okay. Aller-retour, c'est 20 km.
Le trajet n'est pas rentable, même avec un vélo électrique. Mohamed s'épuise depuis 4 ans avec ce travail de livreur autour de la ville d'Avignon pour un salaire en dents de scie.
C'est par jour 40-50 euros je gagne. Et après, je paye à URSSAF. 22%.
Trop peu, selon le jeune homme de 25 ans, pour vivre décemment. Le livreur, habillé en bleu aux couleurs de Deliveroo, ne comprend plus l'algorithme qui fixe le prix des courses.
C'est trop bizarre ça. Déjà, c'est maintenant par kilomètre, donne pas un euro. Donne 80, 70 centimes comme ça.
C'est très mal payé.
Oui, c'est très mal payé. Oui.
Les organisations syndicales réclament justement la fin de ces courses payées moins d'un euro par kilomètre. Elles exigent également un prix minimum garanti par course. Il serait fixé à 3,20 euros.
Reportage ici Vaucluse. Faut-il interdire le voile dans le sport et l'interdire par la loi? Plusieurs ministres ont émis des avis différents ces derniers jours. Les ministres de l'Intérieur et de la Justice y sont favorables. Les ministres des Sports et de l'Éducation nationale y sont opposés. Alors le Premier ministre François Bayrou les réunit en ce moment à Matignon pour trancher. Une proposition de loi Les Républicains a été déposée en ce sens au Sénat. Que mangeons-nous et dans quel couvert? Voilà deux questions que nous allons aborder maintenant à 13h23. C'est l'heure avec Luc Chemla et Rémi Brancato. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Luc, vous allez nous dire dans un instant que les producteurs auront davantage de place dans quelques mois au marché de Rungis. Et vous Rémi, vous nous parlez des couverts et des assiettes que l'on trouve dans les cantines de nos écoles. Leur interdiction fait polémique depuis des semaines. La ministre de la Transition écologique, Agnès Pannier-Runacher, pense avoir trouvé la solution.
Oui, car elle était très critiquée, Agnès Pannier-Runacher, depuis une dizaine de jours. Pour bien comprendre, il faut remonter le temps. Depuis le 1er janvier, le plastique est interdit dans les cantines des écoles, des crèches, des universités. C'est la conséquence de la loi Egalim et de la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire. Mais quelques jours après, la ministre a mis en consultation un décret pour réautoriser la vaisselle, les gobelets, assiettes et couverts en plastique. Elle explique alors que c'est en fait pour éviter que les fabricants de plastique attaquent la totalité de l'interdiction en justice, car la loi Egalim ne serait pas aussi précise que ce décret. C'est un tollé, alors ce matin, finalement, elle rétropédale. Ah. Plutôt que de réintroduire certains ustensiles en plastique, Agnès Pannier-Runacher annonce que deux députés Renaissance vont déposer une proposition de loi pour élargir le périmètre de l'interdiction, la sécuriser juridiquement. Satisfaction pour l'association Cantine sans plastique et sa présidente Tania Pachef.
On se félicite
de ce rétropédalage. L'esprit de la loi s'appuie sur un consensus scientifique. Les molécules liées aux additifs qui sont contenus dans les plastiques peuvent migrer dans les repas. Et puis, effectivement, il y a des petites particules de plastique qui peuvent se décoller quand le plastique s'abîme. Il y a en tout, on va dire, une trentaine de pathologies, l'endométriose par exemple, qui sont en lien avec des expositions à ces molécules.
Mais il y a encore beaucoup de plastique utilisé dans nos cantines, dans les cantines scolaires aujourd'hui.
Eh bien, c'est toute la question, Jérôme, parce que les cantines se sont a priori préparées à cette interdiction du 1er janvier, en remplaçant par exemple les contenants pour réchauffer les plats. Combien de cantines utilisent encore des gobelets, des assiettes, des couverts en plastique concernés par ce décret? Le ministère de la Transition écologique n'a pas su nous répondre ce matin. L'association Cantines sans plastique estime qu'on les utilise encore surtout pour les tout-petits, pour des raisons de sécurité, alors que l'inox, notamment, est une alternative tout à fait satisfaisante.
Merci Rémi Brancato. Alors que mettons dans ces assiettes? Ça, c'est l'autre question. Et manifestement, la ministre de l'Agriculture veut permettre aux producteurs regroupés en coopératives d'avoir accès directement à leurs clients, sans forcément passer par des grossistes. Luc Chemlas, ces coopératives vont avoir un accès plus large au marché de Rungis, qui nourrit 18 millions de franciliens. Un pavillon va même être construit pour cela.
Ah oui, un bâtiment de 2600 m² baptisé Souveraineté Alimentaire. En fait, actuellement à Rungis, on trouve en grande majorité des grossistes, c'est-à-dire qu'ils achètent aux producteurs partout en France et vendent ensuite leurs produits à des professionnels des métiers de bouche. L'idée avec ce futur pavillon, c'est de mettre en avant des produits variés de notre terroir, par exemple fromage, viande, fruits et légumes, mais surtout permettre en priorité aux coopératives agricoles d'être physiquement présentes et donc directement représentées. Ce pavillon doit être une vitrine, explique Stéphane Layani, président du marché de Rungis.
Ce pavillon de la souveraineté alimentaire, eh bien, ça sera le pied à l'étrier à des petites productions. Il y a des entités qui ont intérêt à promouvoir des productions qui sont méconnues ou qui disparaissent tous les jours. J'ai des gens qui me téléphonent en me disant « nous faisons ci à tel endroit et on n'est pas à Rungis, comment faire ?»
Pour les agriculteurs intéressés, un appel à candidature sera lancé par le marché en passant par les régions et chambres d'agriculture. Dominique Chargé se félicite en tout cas de cette ouverture. Il est le président de la coopération agricole qui représente les coopératives.
C'est une initiative qui va permettre à certaines coopératives, et notamment les plus petites, de pouvoir accéder à ces marchés en croissance, diversifier leur portefeuille client et ainsi de pouvoir mieux rémunérer leurs agriculteurs. Il faudra aussi qu'on veille à ce que les conditions d'accès soient favorisées.
Et dans le pavillon, les travaux sont actuellement en cours. L'ouverture est prévue pour cette année.
Merci Luc Chemla, 13h27 sur Inter. À suivre dans la prochaine demi-heure, la météo d'Élodie Calac avec davantage de nuages et un peu plus de vent sur la moitié sud. On va détailler tout cela dans quelques instants. À partir de 13h30, comment est dessinée la carte scolaire? La répartition des postes d'enseignants dans le pays, elle suscite de très nombreuses protestations cette année. 01 45 24 7000 pour vos questions et vos témoignages. 13h45, notre feuilleton nous explique comment s'organise la filière fleurs en France. Et nous serons à nouveau dans le département du Var où poussent les anémones. 13h50, c'est la France et c'est une chanson. Cyril Petit et Frédéric Pommier. Bonjour à tous les deux.
Bonjour Jérôme.
Bonjour Jérôme.
Cyril, où nous emmenez-vous aujourd'hui ?
Eh bien Jérôme, de la Châtaigneraie en Vendée à Piégut-Pluvier en Dordogne, en passant par la Grêle dans la Loire, on parlera de solutions de transport solidaire en ruralité.
Et avec vous Frédéric, une comédienne.
Une grande comédienne, Caroline Siol, que vous pouvez voir actuellement dans Scarlett O'Hara, la dernière conférence de Vivienne Lee aux Poches Montparnasse à Paris. Et avec elle, nous écouterons un titre des Platters, chanson qui lui rappelle notamment les booms organisés quand elle était petite par ses cousines. Boom auquel elle n'avait pas le droit de participer.
Oh, quelle tristesse dans ses souvenirs.
Tout n'a pas été très léger dans l'enfance de Caroline Siol, vous l'entendrez.
Merci à tous les deux et à tout à l'heure.
T'as vu, le voisin a refait ses extérieurs.
Tu parles, c'est un spécialiste qui l'a fait, c'est Daniel Moquet.
Eh ben, nous aussi allons voir ce Daniel Moquet.
Du vendredi 21 au dimanche 23 mars, rendez-vous aux portes ouvertes Daniel Moquet. Pour vos allées, terrasses, clôtures, pergolas, faites confiance aux spécialistes de vos aménagements extérieurs. Daniel Moquet. Tout est OK.
Prêt pour une aventure grandeur nature? Alors embarquez avec le WWF pour Mission Earth Hour. Le samedi 22 mars, le WWF organise la plus grande mobilisation citoyenne pour la planète et vous propose des défis d'une heure en famille. Venez vous émerveiller, créer et vous amuser en pleine nature le 22 mars à Paris, Marseille et Rouen de 10h à 18h. Et depuis chez vous, Retrouvez nos missions et infos pratiques sur www.fr. WWF, ensemble, agissons.
Le temps de votre après-midi.
La météo avec Utopia. Camping, tente et cabane en pleine nature pour des séjours inoubliables, par tous les temps. À réserver sur utopia.com.
Bonjour Elodie Calac.
Bonjour à tous.
Alors une journée ensoleillée mais plus nuageuse et ventée dans le tiers sud.
Oui, des Pyrénées vers le Massif central, on a beaucoup de vent, hein, jusqu'à 80 km/h, parfois 100 pour le vent d'Autan. Et ce vent apporte beaucoup de nuages du Languedoc-Roussillon aux Cévennes, avec quelques averses plus marquées sur le relief. Sur les autres régions méditerranéennes, des nuages aussi. Une petite averse possible vers la Côte d'Azur ou la Provence, mais de belles éclaircies vers la vallée du Rhône et la Corse. Un vent d'est jusqu'à 70 km/h sur les côtes. Ailleurs, on a en effet beaucoup de soleil, alors parfois un petit peu voilé, notamment près de l'océan. Un voile qui va devenir quand même plus épais sur l'Aquitaine dans l'après-midi. Les températures sont plus douces, on retrouve des valeurs de saison ou un peu au-dessus, avec 10 à 19 degrés du nord au sud, 10 à Cherbourg, 14 à Paris et Colmar, 17 à La Rochelle, Clermont-Ferrand, Nîmes, jusqu'à 19 à Bordeaux. Demain, une journée encore un peu plus douce, ensoleillée aussi, mais de la pluie vers le Languedoc-Roussillon et toujours ce fort vent d'Autan.
Merci Élodie Calac, Météo France.
France Inter, le 13-14. Jérôme Cadet.
Aujourd'hui, c'est dans les Landes et dans le Finistère que les syndicats d'enseignants appellent à la grève contre la carte scolaire. Mais depuis plusieurs semaines, ces mobilisations éclatent dans de très nombreux départements du pays, à tel point que notre invité de vendredi dernier, Vincent Dubois, le comédien du duo comique Les Baudins, nous en a parlé.
En ce moment, on a énormément de mails de gens qui nous disent qu'il y a des classes qui ferment dans notre village pour qu'on fasse des petites vidéos et qu'on parle de ça. Et nous, on se sent directement concernés par ça, bien sûr, parce que nos petits-enfants vont aller dans ces écoles-là.
Alors, si la carte scolaire suscite autant de protestations cette année, c'est parce qu'elle prévoit au plan national la suppression de 470 postes à la rentrée prochaine en maternelle et primaire, à quoi le gouvernement répond qu'il y aura à la rentrée prochaine 80 800 élèves en moins dans le premier degré public et qu'il faut bien en tenir compte. Pour en parler avec nous, vous nous appelez 01 45 24 7000. Vous passez aussi via l'application France Inter, numéro composé par Didier. Bonjour Didier.
Bonjour.
Vous nous appelez de Dordogne, c'est ça, Beaussac, c'est le nom de votre commune?
Oui. Beaussac, une petite commune de 180 habitants qui a été fusionnée sous la pression de l'État avec Mareuil en Périgord. Et donc là, on va nous supprimer un poste
d'enseignant.
D'enseignant. Et la conséquence, c'est que les deux classes qui sont actuellement sur Beaussac vont fermer toutes les deux, avec un rapatriement d'une classe sur Mareuil en Périgord.
Donc l'école va fermer dans votre commune?
L'école va fermer. Et ce qui inquiète encore plus les habitants, c'est que dans la prochaine rentrée 2026, c'est le collège de Mareuil en Périgord qui sera impacté par ce ruissellement négatif. Et donc notre question à nous, habitants de la ruralité, c'est comment peut-on arrêter le démantèlement des communes, des services publics et qui fait la désertification des communes rurales.
Combien il y a d'élèves dans votre école, Didier?
Une quarantaine.
40 élèves, et il y en aura, je suppose.
De tout niveau.
De tout niveau.
Les instituteurs très investis dans leur accompagnement de ces élèves qui se sentent très bien. Et c'est vraiment du gâchis, quoi.
Donc 40 élèves du CP au CM2 et vous en perdez encore à la rentrée prochaine?
Oui. Il y a 5-6, oui.
5-6 en moins, ce qui entraîne cette...
La disparition d'un instituteur.
Cette décision. Merci Didier pour votre témoignage. Vous êtes nombreux à nous appeler. Je vous présente nos invités. Guylaine David, bonjour.
Bonjour.
Porte-parole et co-secrétaire du syndicat SNUIPP FSU. Merci d'être avec nous. Nous sommes également en ligne avec Jérôme Bourne-Branchu. Bonjour.
Bonjour.
Inspecteur et directeur académique dans le département du Rhône. Ce type de témoignage, Guylaine David, vous les entendez régulièrement depuis plusieurs semaines. 470 postes de supprimés dans le premier degré. Dans vos calculs, ça donne 5000 fermetures de classes. C'est ça? Comment est-ce qu'on passe de 470 à 5000 classes fermées?
Alors, on a effectivement 470 fermetures de postes au deuxième budget, hein, parce que le premier budget qui avait été présenté prévoyait 3155 fermetures de postes. On est revenu à 470. On imaginait donc qu'il n'y allait pas avoir beaucoup de fermetures de classes cette année. On arrive, avec toutes les remontées des départements, à près de 5000 fermetures de classes et on est environ à 2300 ouvertures de classes. C'est-à-dire qu'on ouvre des classes dans certains endroits, on en ferme. Le solde, vous voyez bien qu'il n'est pas de 470 parce que, en fait, les directeurs académiques dans les départements font le choix de faire autre chose en ouverture de postes, notamment des postes de remplaçants, on en a besoin, mais aussi d'autres postes, des postes de conseillers pédagogiques ou de référents. Ce n'est pas des ouvertures de classes, ça veut dire que ce n'est pas des enseignants dans les classes. Et on voit un peu partout fleurir, notamment en milieu rural, mais aussi en milieu urbain, des banderoles sur les écoles parce que, vous l'avez dit, il y a énormément de fermetures de classes et ça fait réagir.
Donc le solde, c'est 2700, c'est ça?
C'est à peu près ça pour
fermeture de classe. Mais comment est-ce qu'on peut enlever 470 postes d'enseignants et qui est au total, une fois qu'on a fait le décompte des créations et des fermetures, 2700 classes en moins?
Parce qu'en fait, on voit bien qu'il y a des choix qui sont faits autrement, c'est-à-dire qu'on va mettre des postes en dehors de la classe hein, pour faire autre chose et on ne va pas ouvrir des classes. C'est comme ça tous les ans. Le directeur académique qui est en ligne pourra vous l'expliquer comme moi, qu'il y a des choix qui sont faits autrement et qui vont faire qu'il y aura des fermetures de classes. Mais ce qui est important de dire, c'est que cette baisse démographique que l'on observe partout en France, on aurait pu l'utiliser pour alléger les effectifs dans toutes les classes et revenir à une moyenne d'élèves par classe, qui frôlerait celle de la moyenne européenne. Actuellement, on est plutôt à 22 élèves par classe, alors qu'on est à 19 dans la moyenne européenne. Donc on voit bien qu'en France, on est toujours les derniers sur ces questions-là, et on ne permet pas d'améliorer, en tout cas, les conditions d'apprentissage des élèves et les conditions de travail des enseignants, bien évidemment.
Pour rappeler les ordres de grandeur, il y a 324 000 enseignants dans le premier degré, hein, c'est ça, en France. Jérôme Bourne-Branchu, vous qui êtes inspecteur et directeur d'académie dans le département du Rhône. Comment se prennent les décisions? Quels sont les critères? À partir de quel moment on se dit, bon bah là, il faut qu'on supprime un poste? Est-ce que c'est une question de nombre d'élèves? Quels sont les critères?
Alors, la préparation de la carte scolaire, des moyens qui sont donnés au premier degré, comporte trois temps, en vérité. Un premier temps qui est un temps plutôt technique, où tout à la fois se définissent les prévisions d'effectifs et les moyens qui seront donnés pour préparer la rentrée. Un deuxième temps qui est un temps de concertation très riche, que nous avons à la fois dans chacune des académies, chacun des départements, avec les élus locaux, avec les organisations syndicales, avec les usagers, parents d'élèves qui peuvent interpeller également. Puis un troisième temps qui est un temps de décision, parce qu'il faut arrêter la carte scolaire, il faut arrêter des décisions d'implantation ou de reprise des moyens, avec un premier grand temps en février, qui permet ensuite de préparer la mobilité des enseignants, et puis un deuxième temps qui, un peu avant l'été, et parfois au sortir de l'été, juste avant les rentrées scolaires, ajuste cela. Alors, en fonction de quels critères sont réalisés les choix et les choix d'implantation, d'abord des orientations. Nous avons, Mme David l'a rappelé, une évolution à conduire dans l'amélioration des taux d'encadrement. Nous visons à avoir de moins en moins d'élèves par classe. Et les moyens qui sont alloués, même s'ils sont, ils peuvent être légèrement à la baisse cette année, sont liés à des baisses d'effectifs tellement importantes. Nous avons perdu en 10 ans environ 400 000 élèves. On va en perdre encore 500 000 dans les 5 ans qui viennent, qu'ils donnent des opportunités. Et ces opportunités, on les connaît. C'est en éducation prioritaire, par exemple, de poursuivre et d'achever le dédoublement et d'améliorer les taux d'encadrement sur les autres classes, diminuer le nombre d'élèves concrètement par classe. Et sur d'autres territoires, il y a beaucoup d'exemples qui ont été donnés qui ont trait à la ruralité. C'est d'être très attentif à ces réseaux, à l'implantation des postes effectivement en ruralité, parce que la création ou la suppression d'un poste, surtout la suppression d'un poste, n'a pas le même effet, n'a pas le même impact. Et par conséquent, il faut être très attentif en termes d'organisation du service public.
Justement, Jérôme Bourne-Branchu, Didier à l'instant en Dordogne, nous dit « Moi, dans ma commune, il y avait 40 élèves dans l'école. 40 élèves dans une école, c'est pas assez, là, c'est rédhibitoire, il faut fermer ?»
Je crois que ce que décrivait Didier est autre chose. Il décrivait plutôt un projet de réorganisation sur le territoire du réseau des écoles.
Je devine mais la conséquence, c'est que l'école ferme, en fait. Il y a un poste en moins et donc l'école ferme.
Peut-être qu'elle ferme, mais peut-être que les élèves sont aussi regroupés dans ce qu'on appelle une école qui est commune, à plusieurs communes, pour avoir aussi une équipe plus robuste, plus de possibilités, peut-être plus de moyens pour les accompagner dans une organisation qui a pu évoluer. C'est une manière d'organiser le service public en ruralité. Mais il y en a d'autres qui se veulent très protectrice aussi des implantations, parce que l'école est isolée, se serait faire déplacer les élèves trop que de les envoyer plus loin, et qui maintiennent par conséquent les emplois.
Guylaine David, on a parlé de la Dordogne, on est dans le Rhône avec Jérôme Bonde-Branchu. Quelles sont les régions, quels sont les départements qui sont les plus touchés ou qui sont les plus perdants dans cette carte scolaire?
Alors, il me semble que le Rhône perd beaucoup de postes cette année, le Nord aussi et le Pas-de-Calais perdent beaucoup, Paris perd aussi énormément de postes.
Hein, 110 postes supprimés sur les 470 au total à Paris.
Oui, tout à fait. Ouais.
Pourquoi est-ce que c'est le territoire de France le plus concerné, le plus touché ?
Alors parce que c'est lié aussi. Paris est un département qui représente une académie, parce qu'il y a beaucoup d'écoles à Paris et qu'il y a une baisse démographique, mais ça n'explique pas tout. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut aussi se poser la question de comment on maintient l'école partout, proche des parents d'élèves, des usagers. C'est important, notamment en milieu rural, c'est-à-dire que on le sait bien, l'école publique, c'est souvent le dernier service public dans une commune. Et si on perd ce service public, on sait que les communes vont avoir du mal à attirer des populations sur leur territoire. Donc c'est important pour les maires ruraux, d'ailleurs, ils se sont beaucoup mobilisés dans cette carte scolaire parce que c'est important de garder ce lien et ce contact avec les élèves partout sur le territoire. Donc ça, c'est important, même si on est dans une déprise démographique. Il faut prendre en compte cette donnée-là pour abaisser le nombre d'élèves partout dans les classes, parce qu'on sait aussi que nos élèves ont changé, que l'école a changé. Il y a notamment les questions d'inclusion scolaire à mettre en place dans nos écoles. Avec moins d'élèves, c'est beaucoup plus facile de faire tout ce qu'on a à faire à l'école et de donner les moyens à l'école de faire ce qu'elle doit faire.
Sur le taux d'encadrement, 6,13 professeurs pour 100 élèves à la rentrée prochaine. Ça, c'est ce que dit le ministère et qui nous dit que c'est inédit. On progresse tous les ans, mais c'est encore moins que la moyenne européenne ou de nos voisins.
Mais voilà, on est toujours très en retard par rapport à la moyenne européenne. Il faut aussi dire qu'il y a eu une baisse du nombre d'élèves par classe parce que, on l'a dit, en éducation prioritaire, on a dédoublé les classes. Donc depuis 2017, on a forcément mécaniquement une baisse du nombre d'élèves par classe, mais on a des classes encore en région parisienne avec plus de 30 élèves par classe en maternelle. C'est pas normal, on peut pas réaliser ce qu'on doit réaliser dans nos classes avec un nombre d'élèves comme ça.
Question de Caroline sur l'application France Inter. Dans la commune du Haut-Rhin de Lautenbach, j'espère que je prononce bien, à la rentrée prochaine, une classe va fermer. Il faudra répartir 102 élèves, nous dit-elle, dans 4 classes. Comment est-ce possible sans avoir au final des classes surchargées? Quelle est la bonne moyenne, Jérôme Bonde-Branchu? Combien est-ce qu'il faut d'élèves dans une classe? Quelle est la limite à ne pas dépasser dans une classe de primaire?
Il n'y a pas de limite absolument définie. On se donne quand même quelques réflexions. Il n'y a pas de limite absolument définie de réquisition. On se donne un objectif autour de 12-13 élèves dans les classes dédoublées en grande section CP-CE1 et 24 au maximum dans hors éducation prioritaire pour ces trois mêmes niveaux. Mais globalement,
donc c'est 24.
On va plus loin. Oui, mais globalement, on va plus loin en vérité. Je prends un exemple parce que on ne peut pas raisonner qu'à court terme. Je pense qu'il faut prendre aussi de la vision sur la durée. Je prends l'Académie de Lyon par exemple. L'Académie de Lyon en 10 ans a perdu presque 20 000 élèves. Et dans le même temps, l'Académie de Lyon a gagné plus de 1600 emplois en solde, même si cette année, nous avons une reprise de... Ce qui a pour conséquence que...
1600 emplois, c'est-à-dire ?
En plus, c'est-à-dire sur 10 ans, en plus, nous avons eu 1600 emplois de plus, alors que nous avions 20 000 élèves en moins.
C'est ce qui emploi, vous voulez dire dans l'éducation nationale ?
Oui, d'emplois professeurs du premier degré. D'accord. Des professeurs en plus, d'accord, si vous voulez. D'accord. Et donc, c'est cela qui permet tendanciellement d'améliorer les conditions d'encadrement. Pour être très concret, nous allons les améliorer encore dans l'Académie de Lyon l'année prochaine. Pour le département du Rhône, par exemple, nous allons avoir un taux d'encadrement moyen, un nombre moyen d'élèves par classe, ça recouvre des réalités différentes, ça c'est vrai, mais un nombre moyen d'élèves par classe qui sera aux environs de 21 élèves. Donc, on voit quand même que tendanciellement, le pays a fait un effort pour améliorer très largement ses taux d'encadrement.
Jean-Pierre nous appelle du département du Lot. Bonjour Jean-Pierre.
Oui, bonjour.
Je crois que on ferme une classe dans votre commune, c'est ça? Quelle est-elle?
Oui, c'est ça. Alors la commune de Montclairat, il ferme un poste où il y a deux niveaux et il regroupe au village à côté où ils vont se retrouver à 85 élèves. Où il y aura non-respect des normes de sécurité, parce que c'est pas prévu, il n'y avait pas de place pour recevoir autant de monde. Les classes sont trop petites, les toilettes sont pas aux normes. Quant à la cour de récréation, c'est pareil, les cours de récréation, et la cantine va prévoir trois services pour pouvoir pour pouvoir faire face à l'arrivée de ces élèves.
Alors, vous espérez être entendu, Jean-Pierre, vous mobilisez avec d'autres habitants?
On s'est mobilisé, on a fait des manifestations, on a fait des filtrages de route, on a 2600 signatures de pétition. Mais si vous voulez, le gros problème de la ruralité, c'est que ces gens connaissent pas la ruralité. Et quand vous fermez une école dans un village comme ça, c'est un village qui meurt. Et quand j'entendais le monsieur qui disait oui, mais en fait ça attire, nous, ce qui attire du monde quand les gens
veulent s'installer,
veulent venir, c'est ils commencent à vous demander est-ce qu'il y a une école. Alors oui, dans ce village il y a l'école et il y a la cantine.
Merci Jean-Pierre pour votre témoignage. Je fais réagir Jérôme Bonde-Branchu. Bon, les négociations, elles se poursuivent. Est-ce que ça peut bouger encore et quelles sont vos marges de manœuvre localement, une fois que le ministère vous a dit bon, ça sera tant de postes, est-ce que vous pouvez un peu faire bouger les choses localement?
La question ensuite, une fois que nous avons notre dotation, c'est la manière dont on utilise les postes. Et bien évidemment, la discussion que j'évoquais tout à l'heure, la concertation se poursuit en vérité quasiment tout le long de l'année relativement aux situations. J'attire l'attention sur le point suivant, c'est que...
Très vite, s'il vous plaît.
Le contact avec les élus a beaucoup progressé. Je crois, ça devient une préoccupation majeure, à telle enseigne que nous avons introduit ce qu'on appelle des observatoires des liens microélèves, c'est-à-dire des espaces consacrés pour la ruralité à l'échange sur l'organisation scolaire. Et ça se négocie, bien évidemment, avec les élus, puisque ça implique, bien évidemment, l'implantation du service public sur les territoires.
Je mets juste un petit bémol à cela, c'est que l'Association des maires de France a dit qu'il n'y avait pas assez de concertation dans un communiqué publié la semaine dernière. Merci d'avoir été avec nous, Jérôme Bourne-Branchu, inspecteur et directeur académique du département du Rhône. Merci également à Guylaine David, co-secrétaire du syndicat SNUIPP FSU. Merci également à vous, vous nous avez appelés encore nombreux aujourd'hui, 13h46 sur Inter. Notre feuilleton à la découverte de la filière fleurs dans notre pays. La production a fortement chuté ces dernières décennies. La culture des roses ou des œillets notamment a quasiment disparu. Mais elle tente de se relancer. Aujourd'hui, 85% des fleurs françaises poussent dans le Var autour de Hyères où plus de 200 producteurs sont installés. Nous voici donc chez l'un d'eux sur la commune de Lacroix. Claire Chaudière, notre reporter, nous attend à l'entrée d'une grande serre où se dressent des milliers de tiges d'anémones.
Là, il y a presque 80 000 tiges dans la serre. 80 000 bulbes, ça impressionne. Donc c'est de l'anémone Marianne Blanche qui est en pleine production actuellement. On a le cygnard, on a du cosmos, on est en Méditerranée, sur la Côte d'Azur, on a des chaleurs, de la lumière, l'hiver aussi. Et donc nous, on touche à la fin de nos cultures quand dans d'autres régions en France, ils commencent leur culture. C'est un cercle sans fin, on plante, on ramasse, on plante, on ramasse. Je me présente, je m'appelle Ludovic Morel. Avec ma femme, on a créé notre exploitation il y a une douzaine d'années sur un peu plus d'un hectare et on cultive environ une vingtaine de fleurs sur l'année différentes. Alors là, les anémones que vous voyez, c'est un système hors sol, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas en contact avec le sol, elles sont dans des bacs à hauteur d'homme. Ça fait moins mal au dos de ramasser à hauteur que de se plier en deux pour aller la ramasser par terre. Tout ce qu'on met comme eau et comme engrais est récupéré dans les gouttières, tombe dans un bac et c'est réutilisé en cycle fermé. Donc en fait, c'est très vertueux au niveau de l'environnement. Alors, en termes d'énergie, vous le voyez, il n'y a rien. Ni lumière, ni chauffage. Vous voyez un seul chauffage à côté de vous, c'est pas pour chauffer les fleurs, c'est pour protéger les cultures du gel. La moindre goutte d'engrais, le moindre millilitre de produits phytosanitaires est répertorié dans un cahier. C'est une traçabilité 100% de nos produits. On va récolter environ 400 000, 500 000 tiges dans l'année. On va dire qu'une grosse partie part à l'export, sur le commerce international, une autre partie sur la France. Une petite partie des anémones, une partie des renoncules, une partie des pivoines sont achetées par nos clients qui expédient aux États-Unis parce qu'on n'est pas sur les mêmes saisons de production entre les États-Unis et nous. Et puis les États-Unis, apparemment, est un pays tellement grand que les producteurs américains n'arrivent pas à fournir leur pays en fleurs.
Qu'est-ce qui explique, selon vous, que la production de fleurs françaises s'est à ce point contractée, même si aujourd'hui on voit qu'elle reprend, qu'elle rebondit un peu? Qu'est-ce qui s'est joué?
Je pense que c'est la concurrence avec les pays étrangers, notamment le Kenya, l'Amérique du Sud, qui a mis à mal toute une partie de la production française. On avait des fleurs qui arrivaient de l'étranger à des prix de vente qui étaient largement inférieurs à notre coût de production. Donc les grands-parents à ma femme qui avaient l'exploitation il y a très longtemps, eux, ont subi ça de plein fouet. Et puis les coûts de l'énergie, à l'époque, on était, c'est vrai, sur des cultures qui étaient chauffées toute l'année, éclairées. Le coût de l'énergie a explosé, donc ces cultures ont dû s'arrêter.
Est-ce que vous êtes déjà allé voir la production de fleurs en Hollande?
Oui, On est allé au mois de novembre avec ma femme. Bah, c'est des serres à perte de vue, éclairées 24 heures sur 24, chauffées. C'est, voilà, c'est un autre monde. Donc il y a beaucoup d'exploitations qui ferment là-bas aussi, parce que depuis quelques années, ben, où ils avaient le gaz gratuit, ils ne l'ont plus. Donc ils ont dû se remettre en question. Après, j'ai d'autres fleurs que je pourrais vous faire voir qui restent à peu près 100% en France.
Là, c'est si notre c'est culture. Joli.
Ça, c'est notre culture, c'est l'escabieuse.
C'est des belles fleurs rose-rouge.
C'est ça qui fait la beauté de cette fleur. Je pense que les clients, ils ne savent pas ce qu'ils achètent. Chez un fleuriste, vous voyez les fleurs, mais vous ne voyez jamais le paquet dans lequel il est arrivé. Donc, ils peuvent vous marquer ce qu'ils veulent. L'étiquetage n'est pas obligatoire, donc... Peut-être que ça serait une solution à l'avenir.
Une semaine dans la vie d'une fleur. La suite demain, nous serons chez un grossiste près de Lyon.
France Inter. Le 13-14.
C'est la France à 13h50 le mardi. Cyril Petit du journal Ouest France nous raconte ces petites histoires qui en disent long. Et aujourd'hui, Cyril, petites histoires de transport solidaire.
Et je vous emmène, Jérôme, à la Châtaigneraie en Vendée. Une association locale assure ce qu'on appelle du transport solidaire. Alors, il s'agit d'emmener au supermarché ou encore à des rendez-vous médicaux des personnes, souvent des aînés, qui n'ont pas de voiture, pas de permis ou ne sont pas en capacité de conduire. On ne peut pas toujours demander à la famille ou aux amis. Et puis, tout le monde travaille, justifie Maryse dans Ouest France. On m'a posé une prothèse à l'épaule, donc j'utilise le transport solidaire pour aller chez le kiné. Celui qui l'a conduit, c'est Gérard. Chauffeur bénévole, Maryse paye 45 centimes par kilomètre en dédommagement des frais occasionnés.
Et Maryse n'est pas la seule à utiliser ce service.
Non, loin de là, l'association compte 590 bénéficiaires et 115 chauffeurs, surtout des retraités. Elle couvre une quinzaine de communes alentour, mais va jusqu'à Nantes ou La Roche-sur-Yon. Alors, le transport médical a représenté la moitié des trajets en 2024 devant les courses, hein, pour un quart. Il y a aussi les besoins pour aller voir sa famille, pour aller au club des aînés ou pour rejoindre des transports en commun dans 8% des cas.
Et ce type de transport solidaire se développe ?
Oui, à la Grêle, le Cerne et Sévelinges, trois petits villages de la Loire, l'association de transport solidaire a effectué 1000 déplacements en 2024 pour 24 000 km à Piégut-Pluviers en Dordogne. On se rend service, simplement, résume un bénévole de l'association qui favorise les déplacements et le lien social. Ici, on cherche des chauffeurs bénévoles, idem à Ploufragan, dans les Côtes d'Armor, où la solution Hatchoum n'a que 3 conducteurs pour 20 demandes.
Et de quand date ce transport solidaire ?
Eh bien, de la fin des années 1980, avec une première initiative en Normandie, mais aujourd'hui, selon la plateforme du transport solidaire, on compte au moins 360 initiatives partout en France, portées par des associations ou des collectivités, régions en pointe, Pays de la Loire et Nouvelle-Aquitaine, et des initiatives de mobilité solidaire et rurale continuent d'ouvrir. C'est le cas à Vaison-Ventoux, dans le Vaucluse, qui touchera 19 communes dès le 1er avril.
C'est un service qui est très encadré, il faut le dire.
Oui, notamment par un décret de 2019. Alors voici quelques caractéristiques que m'a rappelé Romain Fayou. Il est directeur mobilité en zone peu dense de la société ECOV et il coordonne la plateforme du transport solidaire. Alors, ce transport se base toujours sur un principe de non-concurrence. C'est un service d'appoint utilisé en dernier recours, par exemple lorsqu'il n'y a ni bus ni transport remboursé par l'assurance maladie. Il y a aussi des critères de revenus pour les bénéficiaires, hein, qui payent de 10 à 50 centimes du kilomètre en moyenne, avec un montant théorique perçu par le chauffeur de 32 centimes. Et puis, la distance maximale est de 100 km, principalement dans un périmètre de commune rurale ou d'unité urbaine de moins de 12 000 habitants.
Tout ce que vous nous racontez, Cyril, en fait, ça nous parle de la dépendance des habitants qui habitent à la campagne, dépendance à la voiture.
Oui, selon un rapport réalisé en avril 2024 par le Secours catholique, 4 déplacements sur 5 dans les zones rurales se font en voiture en raison du manque d'alternatives viables comme les transports en commun par exemple. Or, 10% des ménages n'ont pas accès à la voiture et dépendent d'une association ou de leurs proches pour leurs déplacements du quotidien. Et puis, cet enclavement touche aussi les jeunes, hein, Jérôme. Ainsi, 30% des 15-29 ans qui vivent en ruralité ont déjà dû renoncer à se rendre sur leur lieu d'études à cause de difficultés de déplacement, selon un sondage IFOP pour l'association Rura et l'Institut Terram, et 22% n'ont pu honorer un entretien d'embauche.
C'est donc un enjeu majeur. Cyril Petit, exceptionnellement en direct de Lille, grâce à nos amis d'ici Nord, de C'est la France à C'est une chanson. C'est la comédienne Caroline Siol que l'on retrouve à votre micro aujourd'hui, Frédéric Pommier.
Elle est actuellement à l'affiche du théâtre de Poche-Montparnasse à Paris. dans Scarlett O'Hara, la dernière conférence de presse de Vivien Leigh. Et c'est une chanson des Platters qu'elle a souhaité que l'on écoute. 16 Tones, traduction 16 tonnes, une chanson qui raconte le quotidien d'un ouvrier d'une mine de charbon. Chanson qui reste liée pour Caroline Siol aux étés de son enfance.
J'allais un mois par an dans ma famille paternelle, protestante. Et donc j'écoutais mes cousines, usagées comme moi, qui donnaient ce qu'on appelait à l'époque des booms, mais j'avais pas le droit d'y aller. Et donc j'entendais cette chanson qui m'a absolument bouleversée, ne serait-ce que par la voix du chanteur. Évidemment, je ne savais pas du tout la signification de cette chanson que j'ai apprise beaucoup plus tard. Et quand je pense que tout le monde dansait allègrement là-dessus, alors que ça veut dire porter 16 tonnes ne vous amène à rien de bon, etc., etc. Mais je me souviens aussi que j'étais derrière la porte et en fait j'étais très amoureuse d'un vague cousin. Et je me disais, mais quand est-ce que je vais avoir le droit d'aller danser aussi?
People say a man is made out of mud. A poor man made out of muscle and blood. Muscle and blood, skin and bone. A mind that's weak and a back that's strong.
Et à partir de quel âge vous avez pu aller danser, participer à ces booms qu'organisaient vos cousines?
C'était 16 ans.
Aujourd'hui, on dirait que c'est très tard.
Aujourd'hui, on dirait que c'est très tard. Finalement, j'ai beaucoup fait de choses très tard dans ma vie.
I owe my suit to the company store.
C'est en 1961 qu'est sorti ce titre des Platters, Frédéric.
Reprise d'une chanson composée 15 années plus tôt et qui réveille finalement chez Caroline Siol des souvenirs assez douloureux quand elle était donc petite fille.
C'était une enfance qui a été tout le temps baignée dans la violence et le mystère. Parce que j'ai vécu une guerre des religions toute mon enfance.
Dans votre famille ?
Dans ma famille. Je crois que mes grands-parents protestants, grands-parents paternels n'ont jamais voulu dire bonjour à ma mère, catholique, et mon père, qui était un être assez particulier, légèrement fou, très intelligent, mais qui a transformé son intelligence en quelque chose de totalement négatif. Il arrivait un temps, rarement, parce que je ne savais jamais où il était, dans quel pays il était, et il arrivait à cheval. Et en passant, il me disait, tu vois, ce petit pont-là, c'est là que nous avons oxy 467 papistes. Et donc, je peux vous dire que ça m'a guéri de toute envie de religion.
Ces semaines que vous passiez dans les Cévennes avec vos cousines, est-ce que c'était des semaines de légèreté ou est-ce que ça reste un souvenir très mitigé?
Bizarrement, le souvenir est plutôt bon parce que c'était quelque chose de régulier dans ma vie qui n'était pas très régulière. Mais en même temps, toutes les nuits, je pleurais parce que j'étais désespérée de cette atmosphère qui régnait au-dessus de ma tête et de ne pas comprendre ce qui se passait, pourquoi ces gens se haïssaient. Mais bon, je m'en suis sortie. Hein. Ça a guéri de pleurer toutes les nuits.
Vous, est-ce que vous avez le sentiment d'avoir manqué d'amour quand vous étiez enfant ?
Ah non, j'ai pas du tout manqué d'amour. Ma mère était quelqu'un de tout à fait merveilleux, extraordinaire, quelqu'un de pur. Elle était assistante sociale, elle était généreuse, etc. Bon, après, elle a pas du tout supporté que je fasse ce métier. D'ailleurs, personne dans ma famille ne l'a supporté. Mon père, quand j'ai été reçu au conservatoire, il m'a appelé pour me dire « Je te prierai de changer de nom ». J'ai dit « Bah écoute, il fallait y penser avant de me faire ». Voilà, l'ambiance. Mon père n'est jamais venu me voir. Il n'a jamais vu ni un film, ni une pièce, ni quoi que ce soit.
Ça fait mal un peu?
Bon, vous savez, les enfants s'habituent à tout.
Est-ce que si vous l'avez tant aimé cette chanson-là, ce n'est pas parce que vous aussi, vous aviez l'impression de porter un poids de 16 tonnes sur les épaules et qui était cette lourdeur de l'ambiance familiale?
Oui, je pense que sans doute c'était cette chanson-là qui m'avait frappée pour cette raison-là aussi. Mais je pense qu'après, c'est un peu pour ça que j'ai fait ce métier, pour pouvoir déverser tout ce que je n'avais pas pu déverser pendant mon enfance.
I owe my soul to the company store.
Pas descendre aussi bas que le ténor des Platters. 16 tons, les Platters. C'était donc, Frédéric, le choix de Caroline Siol.
C'est même la basse des Platters. Mm-hmm. Caroline Siol, que vous pouvez retrouver dans Scalette O'Hara, la dernière conférence de Vivienne Lee, c'est au théâtre de Poche, Montparnasse à Paris.
Merci Frédéric et à demain. Bonjour Mathieu Vidard.
Bonjour Jérôme Cadet.
Quel est le programme de la Terre au Carré ?
On va s'intéresser à une ONG africaine de conservation de la nature qui fait l'objet d'une enquête.
A tout de suite.